sens, parce que ce que j'ai compris, c'est que les gars, ils attendent pas que la nature liquifie les chenilles, là. Ils s'en occupent, eux autres. Super. Merci beaucoup, William. Excellent. Donc, ce matin, on va regarder à Jésus-Christ la parole. On est en train, depuis quelques semaines, quelques mois, à regarder qui est Jésus. Et puis, on avait commencé en regardant aux sept déclarations « Je suis » de Jésus, « Je suis le pain qui donne la vie, je suis la lumière du monde, je suis la porte, je suis le bon berger, je suis la résurrection et la vie, je suis le chemin, la vérité et la vie, et je suis le vrai cep. » Et on avait, ça c'est toutes des déclarations dans l'Évangile de Jean qu'on avait regardé ensemble. Pardon. Après ça, on avait poursuivi avec d'autres éléments de l'identification, de l'identité, pardon, de Jésus-Christ. Pas des choses qu'il a dit « je suis », mais qui étaient vraiment là, vraies de lui, comme Jésus, l'ami des gens de mauvaise vie. Puis c'est qui a une mauvaise vie ici? Ah, oh, Lorraine? OK. Oui. Oui, Maurice? Ah oui, c'est vrai, c'est une bonne idée, Maurice. Merci beaucoup. Là, on va capter vos paroles et vos pensées même. Non, non, mais c'est des fois ici, on fait ça comme interactif, hein? Fait que si vous parlez, bien, ça va être capté, puis parlez assez fort si vous avez une question, un commentaire, OK? Sentez-vous à l'aise? Donc, finalement, c'est qu'on est tous des gens de mauvaise vie. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus est l'ami des gens de mauvaise vie. Il est venu pour les gens de mauvaise vie. Jésus loin de Dieu, hein? C'est quoi? Mon ami. Je l'ai mis à l'envers, je pense. Il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est Jean qui... Tu m'as joué un tour, hein? Tu as fait par exprès? Bon. OK. Jésus loin de Dieu, Jésus-Christ, quand on dit Christ, ça veut dire quoi? Ça veut dire loin. Loin de Dieu. Il a été loin de quoi, Jésus? De l'Esprit-Saint, à son baptême. Et ça démontrait qu'il était le choisi de Dieu, celui que Dieu avait envoyé. Et après ça, on a vu Jésus, le sauveur du monde, la dernière fois. Jésus est le sauveur du monde. Et ce matin, on va regarder dans Jean 1, l'Évangile de Jean, au chapitre 1, à Jésus, la parole. Pardon. Jésus, la parole. Avant de lire le texte, j'aimerais vous entretenir un peu sur c'est quoi la parole. C'est quoi une parole? Quand on dit Jésus la parole, il faut s'arrêter pour essayer de comprendre c'est quoi une parole, premièrement. Une parole, c'est une communication, c'est une façon de communiquer, un moyen de transférer, hein, la pensée d'une personne à une autre. Donc, si je dis quelque chose oralement ce matin, vous m'entendez? Mon cerveau envoie des messages à travers les signaux électriques qui se propagent le long de mes nerfs, jusqu'à mes cordes vocales, qui font vibrer l'air à différentes fréquences et intensités. Et les ondes d'air produisent ensuite comme des ondes choc, hein, des vagues dans l'atmosphère. Ces ondes, si on y pense comme il faut, pensez-y là, ces ondes ne sont pas l'information, mais contiennent l'information. Ces ondes qui passent à travers l'air, là, ce n'est pas ma pensée, mais communique ma pensée. C'est fou. Puis après ça, ces ondes-là vont frapper vos tympans, vos oreilles vont les transformer de nouveau en signaux électriques, pensez-y, qui remontent vos nerfs jusqu'à vos cerveaux où ils sont décodés et votre cerveau, par votre cerveau, et vous captez l'information. Donc, lorsque ces ondes frappent les tympans, ils sont transformés en signaux électriques. Les signaux électriques, ce n'est plus des paroles, là. C'est des signaux électriques. Et les signaux électriques ne sont pas la pensée, mais contiennent la pensée, encodent pour la pensée. Donc, on a des moyens qui, plusieurs différents moyens qui transportent l'information. Mes signaux, hein, dans mes nerfs, mes cordes vocaux qui vibrent, les ondes dans les airs, après ça, votre oreille qui transforme ça en d'autres signaux. Voyez-vous là? L'information est restée la même. Mais elle a été transmise par différents moyens. Les moyens ne sont pas l'information, mais les moyens contiennent l'information. Là, votre cerveau décide que cette information mérite d'être conservée en forme écrite. Alors, votre cerveau envoie des signaux électriques le long de vos nerfs jusqu'à votre main et vos doigts. Et ces signaux électriques ne sont pas les paroles que moi j'ai prononcées, mais contiennent l'information de ces paroles-là. Et votre main transfère ces informations-là avec un crayon sur un papier au moyen de l'encre. L'encre n'est pas la pensée, mais elle contient par les formes la pensée. C'est fou, hein? C'est, quand on s'arrête, on dit, mais oui, mais en fait, l'information, il n'y a rien de physique dans l'information. C'est les moyens qui sont physiques. L'information, la parole elle-même, elle n'est pas physique, mais elle est transmise par des moyens physiques ou captée par des moyens physiques. Là, vous décidez, rendu chez vous, que vous allez transférer ça sur votre ordinateur. Alors, vous vous asseyez à votre ordinateur, vous tapez. Votre cerveau envoie les messages à vos doigts. L'ordinateur transfère ça, encore une fois, en signaux électriques. Et c'est capté dans un disque dur enregistré. Les électrons ne sont pas l'information, mais contiennent l'information. Ce matin, nous allons considérer ce passage magnifique qui nous parle de Jésus, qui est l'information de Dieu, qui est la parole de Dieu, celui qui communique la pensée de Dieu, la personne de Dieu. C'est extraordinaire. On va lire dans l'Évangile de Jean, chapitre 1. Au commencement, à l'origine, était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites ou créées par elle et rien de ce qui a été fait ou créé n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçu, ou plutôt étouffé, ou vaincu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, ou avait été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens ne l'ont point reçue, mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir ou le droit de devenir enfants de Dieu. Ses enfants sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair ou de notre propre chef, ni de la volonté de l'homme, de la volonté de quelqu'un d'autre, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Pleine de grâce et de vérité, nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce, où il a déversé sur nous une grâce après l'autre. Car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Prions. Père éternel, on te bénit pour cette parole écrite ce matin, cette parole vivante. Créateur souverain du ciel et de la terre, merci de te révéler à nous ce matin. Par ton esprit, ta parole, Seigneur Jésus, révèle-nous le Père. En chassant ton nom toute autre voix, on veut entendre ta voix seule, Jésus, qui nous parle ce matin, pour la gloire de ton nom. Amen. Je vais faire un survol du passage avec vous ce matin, et après, on va regarder les trois premiers points, et dans les autres semaines, Dieu voulant, on regardera les autres points. Qu'est-ce qu'on voit? Ce passage-là est bourré d'informations, est bourré de belles vérités. C'est riche, c'est profond, c'est fondamental à notre être et à notre foi. Donc, qu'est-ce qu'on découvre sur la parole dans ce passage-là? On découvre au verset 1 qu'il était dès le commencement, il est éternel. On voit aussi qu'il était avec Dieu et qu'il était Dieu, donc il est divin. On voit aussi que toutes choses ont été créées par cette parole-là. Il est créateur. On voit aussi qu'il est vivant au verset 4. En elle était la vie, dans la parole était la vie. Elle contenait la vie en elle-même. Et cette vie-là était la lumière du monde, donc c'est une lumière, une parole qui est éclairante, qui vainc aussi les ténèbres, qui est vainqueur des ténèbres. Et cette lumière apporte la vie. La parole est vivifiante, ou elle est porteuse de vie. Après ça, on voit ici que la parole est faite chair, elle est incarnée. Devenu chair. Ensuite, on voit que c'est un être glorieux. Au verset 14, il a vécu parmi nous et nous l'avons contemplé, sa gloire. C'est une parole glorieuse. Ensuite, gracieuse, ou gracieux, il est gracieux. Pleine de grâce, au verset 14, et de vérité. Ensuite, au verset 15, ensuite, encore une fois, nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. On voit aussi que la parole est révélatrice, que Jésus est révélateur au verset 14. La parole a été faite chair et nous l'avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Au verset 17, on voit que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ, la vérité. Et finalement, au verset 18, personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique, qui est dans le sein du Père et lui qui l'a fait connaître ou révélé. Tant de merveilleuses vérités ce matin. Tant de vérités éblouissantes sur la personne de Jésus-Christ. On nous le présente ici comme la parole, ou dans certaines versions, le Verbe. Et c'est encore plus pertinent de l'appeler le Verbe, parce que parole peut vouloir dire un nom, un adjectif, un adverbe, mais quand on dit Verbe, il y a une action. Les verbes sont les mots d'action. Donc, dans plusieurs versions, vous allez voir le Verbe. Le Verbe. Celui qui agit, qui est vivant. Et puisqu'il est vivant, il agit. En choisissant de représenter le Christ comme la parole, on comprend qu'il est quoi. Si on revient à l'introduction, on comprend que Jésus est le moyen par lequel Dieu va communiquer avec nous. Qu'il va révéler sa pensée, ses émotions, ses intentions à notre égard. Jésus est cette parole. Jésus est le moyen. Vous savez, quand j'ai parlé tantôt de la transmission d'informations, on a la parole verbale, orale, on a la parole écrite, mais ici, on a une autre forme de parole. C'est la parole incarnée. Wow! La parole sur deux pattes. La parole faite chair. C'est spectaculaire, excusez. C'est spectaculaire, c'est complètement unique. Il n'y en a pas eu d'autre et il n'y en aura pas d'autre. On a la parole verbale, vous l'entendez ce matin, la parole écrite. Et là, Jésus, lui, c'est la parole incarnée qui est devenue chair. Oui, Jean-Claude, parle fort. Oui.
À comprendre l'éternité de Jésus-Christ. C'est parce que c'est formulé de la façon suivante. Il est écrit au commencement, la parole existait déjà.
Ah oui, oui. C'est ça. Oui. Excellent. Merci beaucoup, Jean-Claude. Dès l'origine, dès avant l'origine, la parole était là. Qui est ce Verbe, cette parole? C'est Jésus le Christ. Au verset 17, c'est magnifique ce passage-là d'un point de vue littéraire aussi, parce que l'auteur, il nous amène tranquillement à saisir, hein, finalement, que c'est Jésus, là, de qui il parle. Alors nous allons déballer ensemble ces vérités une par une. Et ça me fait penser à mon épouse, Noël. Elle fait des bas de Noël pour tout le monde. Puis, tu as le bas de Noël, mais elle emballe chaque petit cadeau à l'intérieur. Là, elle prend le temps d'emballer chaque petit cadeau. Fait que c'est un cadeau qui est bourré de petits cadeaux. C'est ça qu'on va faire ce matin. On va déballer trois de ces petits cadeaux-là à l'intérieur du grand bas. OK? Il est éternel au commencement. Dès l'origine, comme Jean-Claude disait, dès avant l'origine, il existait déjà, avant même la création de l'univers. Jean le baptiseur va dire plus tard dans le passage que Jésus l'a précédé, car il existait avant lui. La prophétie de Michée sur la venue du Messie, hein, vous vous rappelez, « Et toi, Bethléem Ephrata, la plus petite des villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui régnera sur Israël. Son origine remonte au temps passé, aux jours anciens. » En parlant de Jésus. Jésus lui-même, lors de la prière, de sa prière dans le jardin de Gethsémané, dit à son Père, « Père, glorifie-moi de la gloire en ta présence. » Donne-moi cette gloire que j'avais déjà auprès de toi avant les origines du monde. Voyez-vous? Ça confirme ce que Jean-Claude vient de nous dire. Donne-moi cette gloire que j'avais déjà auprès de toi avant les origines du monde. Et aux leaders religieux du temps qui l'interrogeaient sur son identité, Jésus déclare, « Vraiment, je vous l'assure, avant qu'Abraham soit venu à l'existence, moi, je suis. » Moi, je suis, pas j'étais, je suis. Avant l'existence d'Abraham, moi, je suis. Et on sait que ce « je suis » est le nom de Dieu dans l'Ancien Testament, le Yahvé, celui qui a une existence éternelle, qui est traduit souvent comme « éternel hein? ». Quand c'est marqué « l'Éternel a dit », c'est ça, c'est Yahvé, c'est le « je suis ». Alors, la parole est éternelle. Elle est éternelle. Ce qui nous conduit tout naturellement aux deuxièmes caractéristiques, que la parole, le Verbe, il est divin. Il est divin. Parce que dans cette déclaration de Jésus, il prend le nom de « Je suis Yahvé », celui qui est éternel. Il s'identifie à Dieu lui-même. Et dans ce verset, on voit qu'il nous est dit que la parole était avec Dieu et qu'elle était Dieu. C'est un peu bizarre, n'est-ce pas? Comme formulation, on dit, mais attends un peu, comment est-ce que tu peux être avec quelqu'un et être quelqu'un? Si je dis que je suis avec Maurice, je suis allé à pêche avec Maurice et je suis Maurice. Mais là, il y a quelque chose, là. Tu vas dire, Brian, je pense que tu es resté trop longtemps au soleil, là. C'est vrai, hein? La formulation est particulière, là. Il faut l'admettre. C'est comme contre-intuitif, c'est contre-logique, là. Tu ne peux pas être avec quelqu'un et être le quelqu'un aussi. À moins que tu sois Dieu. Une autre version nous traduit ça. La parole était tournée vers Dieu ou encore était présent à Dieu. Présent à Dieu. OK. Est-ce que ce verset nous communique en se référant à Dieu? On comprend finalement qu'il s'agit de Dieu le Père. Parce que plus tard, il va nous parler que le Fils unique, le Fils éternel l'a révélé. Hein? La parole est devenue chair et c'est celui qu'on appelle le Fils, Jésus, il nous l'a révélé. Donc, on voit dans ce passage-là le concept de la Trinité. Il y a un seul Dieu, mais voici deux de ces trois personnes, le Père et le Fils, qui est représenté comme la parole. Ce que l'auteur tente de nous exprimer est hors de notre portée. Mais il est évident que la parole est de nature divine, distincte, mais indissociable avec Dieu le Père. Ce concept n'était pas nouveau. Ce n'est pas Jean l'évangéliste qui a inventé quelque chose de nouveau. Nous retrouvons, par exemple, dans Genèse 1, 26, Dieu l'Éternel qui dit « Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. » Tu dis là, encore là, c'est comme, c'est bizarre parce qu'on nous dit « Il y a un seul Dieu. » Écoute, Israël, l'Éternel ton Dieu est un. Hein? Un, le schéma qu'on appelle là. Ce que les Juifs répètent, « Écoute, ô Israël, l'Éternel ton Dieu est un seul Dieu. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, etc. » Et comment il peut être un alors qu'il dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Et on sait aussi que le terme employé pour désigner Dieu dans la Genèse est « Elohim », qui est Dieu au pluriel. Donc, le concept de la Trinité était déjà présent, elle est présente sur toute la ligne dans la Bible. Les témoins de Jéhovah voudraient penser que Jésus n'est pas Dieu, qu'il a été créé. C'est faux. On le voit ici. La parole était avec Dieu et elle était Dieu. Le fait que Jésus-Christ soit d'origine divine et éternelle est fondamental à notre foi. Ces vérités ont été attaquées par les humains et par le diable depuis la nuit des temps. Pourquoi? Pardon? C'est essentiel à notre foi. Ces vérités-là sont essentielles. Parce que si Jésus n'est qu'un homme comme vous et moi, alors nous pouvons nous positionner en juge sur sa vie et nous permettre de douter de sa mission, questionner son message et nous esquiver de toute responsabilité à son regard, à son égard. Et c'est ce que les hommes ont fait. Ils ont attaqué la divinité de Jésus. Ils ont attaqué l'éternité de Jésus. Et en essayant d'enlever ces choses-là à Jésus, en le positionnant comme un homme seulement, bon, ça devient un prophète comme les autres, ça devient un illuminé ou même un imposteur. Il n'est plus le chemin, mais un chemin parmi tant d'autres. Voyez-vous, ces choses-là sont essentielles et sont vraies. Elles sont précieuses pour nous. Le fait que Jésus, le Fils de Dieu, soit éternel et divin, que la parole soit depuis dès l'origine et un avec Dieu, sont essentielles à notre foi. L'apôtre Jean nous le présente ici comme étant le Créateur aussi. Et non seulement le Créateur, mais l'unique créateur. Wow! Regardez, la parole était au commencement avec Dieu. Verset 3, « Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Si tu n'avais pas compris que toutes choses ont été faites par elle, il n'y en a pas d'autre. Rien. Avant qu'il y ait matière, temps et espace, la parole existait. Et cela est très logique, parce que la matière ne peut pas créer la parole. Les choses physiques ne peuvent pas, les choses inanimées physiques ne peuvent pas générer de l'information. Il faut que ce soit l'inverse. Et ça a toujours été l'inverse depuis le commencement de la Terre. C'est l'information qui génère les choses et non l'inverse. En 2013, on était en voyage, Lorraine et moi, en voyage vélo en Bretagne. Et la première journée de vélo, on arrive là-dessus. On ne s'attendait pas à ça. On n'avait pas vraiment, on n'avait pas pris la peine de regarder là, puis de s'informer sur tout le trajet. Ce sont les mégalithes du Morbihan. Les mégalithes du Morbihan. Donc, on regarde ça, puis on se dit, c'est quoi cette affaire-là? Et puis là, ben, il y avait des panneaux mégalithes. Ben non, quand tu vois le mot mégalithes, hein, qui veut dire grosse pierre en grec, ben tu dis, OK, c'est ancien, c'est vieux, là. C'est archéologique. Et je me rappelle, un soir ou deux plus tard, il y avait un scientifique sur notre voyage aussi, un gars brillant, et on s'est mis à parler de la création versus l'évolution. Et j'ai dit, les pierres, là, qu'on a vues, là, c'est arrivé tout seul, ça, là. Ben non. OK. Comment tu sais que c'est pas arrivé tout seul? Parce qu'il y a un ordre. Ils sont toutes alignées. D'abord, les pierres sont droites, sont toutes alignées, et on sait, par les recherches, qu'elles sont alignées sur le solstice d'été ou le solstice d'hiver ou quelque chose de même. Il y a de l'information qui est communiqué par les pierres. On voit qu'il y a une structure, il y a une organisation. Les pierres ne sont pas arrivées là, comme ça, tout seules. Il y a eu une intelligence derrière ça qui fait que n'importe qui, n'importe quel humain peut arriver là-dessus et dire « ça, ce n'est pas arrivé par hasard, c'est certain. » C'est certain que c'est fait de main d'homme, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il y a une structure, il y a une organisation, il y a une information qui est communiquée. Et ça, c'est arrivé tout seul. L'ADN. C'est arrivé tout seul, ça. L'ADN, c'est plus performant, c'est plus poussé que tous les superordinateurs sur la Terre. Ça contient plus d'informations dans une cellule que tous les ordinateurs réunis sur la Terre. Ça a une structure, ça a une fonction, et c'est impossible que ça soit arrivé seul. Impossible. Les ordinateurs fonctionnent tous sur le principe binaire. Je ne sais pas si vous savez ça, hein? Parce qu'à la base de l'ordinateur, c'est l'électronique. Et l'électronique, c'est soit « on » ou « off ». Ça, c'est la base de tout ordinateur. Aussi sophistiqué que soient les ordinateurs, ça fonctionne sur un système binaire, oui ou non, « on »,« off », c'est ça. Mais ici, on a un système qui fonctionne sur 4. Il y a 4 nucléotides qui forment la chaîne de l'ADN. Donc, pour chaque spot, là, c'est pas juste oui et non, c'est 4 possibilités de choses différentes. C'est 16 fois plus complexe que le système binaire. 16 fois plus, pas 2 fois, 16 fois plus complexe que le système binaire. C'est arrivé tout seul. Impossible. Ça, la matière ne peut pas Et ça, c'est de la matière, mais ça communique l'information. L'ADN communique la couleur de tes cheveux, le fait que tu sois humain ou poisson. Communique si tu as un bras, deux bras, trois bras, si tu as des cheveux ou des ailes ou des plumes. C'est tout encodé. On voit que c'est structuré. On voit que c'est intelligent. C'est impossible que la matière inanimée produise de l'information. C'est toujours l'inverse. C'est toujours l'information qui produit quelque chose. Et donc, on voit ici que Jean nous dit que la parole était avant l'origine. Et c'est elle qui a produit ce qu'on voit, tout ce qu'on voit. Jésus-Christ, le Fils éternel de Dieu, est la source de toute information à l'origine de la création. En passant, un des deux chercheurs qui a découvert la molécule de l'ADN, c'est Francis Crick. Et Francis Crick, il était chrétien, il ne croyait pas à l'évolution. Et vous avez beaucoup de gens qui mettent en opposition la science avec la foi. Ils disent, si vous croyez à ça, c'est impossible de croire à Jésus-Christ puis à être scientifique, c'est faux. C'est faux. On a dit que l'information ne peut être générée de matière inanimée. L'information n'est pas la matière, mais elle peut être encodée dans la matière par les ondes de pression dans l'air, par les écrits, par les flux nerveux, par les transmissions d'électrons, par les mégalithes, par l'ADN. L'information n'est pas créée, elle est transmise. Et l'ADN n'est qu'une façon de transmettre l'information. On nous a fait croire que l'information pouvait arriver comme ça par des modifications externes. Non. L'environnement ne peut aucunement créer de nouveaux gènes, mes amis. Aucunement créer de nouveaux gènes. C'est faux. Tout ce qu'elle peut faire, c'est sélectionner sur les gènes déjà présents. C'est tout ce que l'environnement peut faire. Ou dégrader les gènes qui sont présents. Elle ne peut absolument pas créer de nouveaux gènes. L'environnement ne peut pas créer un nouveau gène pour dire à une créature, pousse des ailes. Et c'est tellement complexe de toute façon. On voit que les ingénieurs qui fabriquent les avions, qui dessinent les avions, ça prend de l'intelligence pour faire une aile d'avion qui va fonctionner de telle façon, dans telle condition. Et une aile d'oiseau est beaucoup plus complexe que ça. Et il est vivant en plus. Et même les ingénieurs s'inspirent de la nature maintenant, de plus en plus. Ils appellent ça, c'est toute une nouvelle branche depuis quelques années, la biomimétique. Ils vont aller chercher dans la nature des éléments pour dire, OK, ça... On a des meubles dans notre salle d'opération, là, la surface est antibactérienne. Savez-vous de ce qu'ils ont pris ça? De la peau des requins. Ce n'est pas fait de peau de requin, là. Mais ils ont découvert que la peau de requin est antibactérienne à cause de sa structure. Et ils ont dit, peut-être que si on fait un plastique qui est avec, si on incorpore cette structure-là, ça va être antibactérien aussi. C'est le cas. Donc, ils se sont inspirés de la nature pour dire, OK, on va produire ça. Ils se trouvent bien intelligents, là. Et c'est vrai qu'ils sont intelligents. Mais ça, la peau de requin, bien ça, c'est arrivé tout seul. Alors, vous êtes une gang d'ingénieurs super intelligents, super instruits, et ça vous a pris des années pour faire ça, qui est une copie de ça. Mais vous, vous vous targuez d'être intelligent et vous l'êtes pour avoir produit ça, mais vous dites ça, c'est arrivé tout seul. C'est un non-sens. C'est une impossibilité que la matière puisse encoder de l'information. L'information tire son origine de l'intelligence. Toute information est tirée de l'intelligence. On a vu les mégabits. On se dit, il y a une intelligence derrière ça. Il y a une information qui est transmise, oui. Ça veut dire qu'il y a une intelligence derrière. Ce n'est pas arrivé par hasard. C'est impossible. Voici que Jésus-Christ, le Fils éternel de Dieu, est la source de toute information à l'origine de la création. Ce Fils est l'image du Dieu que nul ne voit. Il est le premier-né de toute la création. Ici, je vais faire une parenthèse. Encore une fois, les témoins de Jéhovah voudraient faire dire par là que Jésus a été créé, qu'il n'est pas Dieu. OK? Vous avez peut-être déjà entendu ça. Le terme « premier-né » ne veut absolument pas dire « premier créé ». C'est un terme qui veut dire « héritier ». L'héritier. On pourrait remplacer « premier-né » par « l'héritier ». Parce que dans la société hébraïque et dans le monde antique, on sait bien que le premier fils, le premier-né, qu'est-ce qu'il faisait? Il héritait. Et c'est ça que ça veut dire, les chers amis. Ça n'a absolument rien à voir avec la création, d'être créé. Jésus est le Fils et le premier-né. Il est l'héritier de toute la création. Et on va le voir en suivant le verset. Tu ne peux pas dire que Jésus a été créé. Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses. Dans les cieux, comme sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes, les seigneuries, les autorités, les puissances. Oui, par lui et pour lui, tout a été créé. Donc là, il faut être aveugle là, pour penser que Jésus, c'est un être créé. C'est marqué que c'est lui qui a tout créé. Il est lui-même avant toute chose et tout subsiste en lui. Amen. Encore une fois, dès avant l'origine. Même, et c'est ça qui est merveilleux, les choses invisibles. Quelles choses invisibles? Pensez aux lois de la nature, la loi de la gravité, la loi de la lumière, toutes les lois physiques. Moi, j'ai fait un bac en sciences avant de faire ma médecine, puis j'ai étudié la physique, j'ai étudié la chimie. J'étais époustouflé de voir le nombre de lois et de formules qu'on a découvert. On n'a pas créé ces lois-là. Et il n'y a personne, même les évolutionnistes, qui va dire que c'est nous qui avons créé ça. C'est de la folie. On sait qu'on a juste découvert ces lois-là. Et ces lois-là sont immutables, sont éternelles. Mais c'est qui a créé ces choses-là? Les étoiles. Les lois de la nature. Mais ici, il nous est dit dans Colossiens 1, il nous parle d'autorité, de seigneurie, de trône, de puissance. Il y a tout un monde spirituel qu'on ne voit pas, que Jésus-Christ a créé également. Et lorsque Jésus-Christ était sur la terre et rencontrait un démon, qu'est-ce qui se passait? Le démon le reconnaissait. Je sais, t'es qui? Et les démons devaient se soumettre. Le démon, c'est un ange déchu, mais c'est Jésus qui les a créés. Pur, pas déchu. Oui. Même les choses invisibles, les lois de nature, même les êtres spirituels, les anges, oui. Même moi, oui. David dit dans les psaumes, « Je n'étais qu'une masse informe, mais tu me voyais. Et dans ton registre se trouvaient déjà inscrits tous les jours que tu m'avais destinés, alors qu'aucun d'eux n'existait encore. » J'ai une question à te poser ce matin. Reconnais-tu que tu as été créé par le Verbe, par la parole de Dieu? Toi, là. Quelles en sont les implications de cette vérité-là? Parce qu'il dit tout et rien. Hein? Tout a été créé par lui et rien n'a été créé sans lui. Ça t'inclut-tu? Quelles sont les implications de cette vérité-là? Un, tu n'es pas Dieu. Tu n'es pas Dieu. Il est l'unique. Ça veut dire que tu n'es pas Dieu. Mais aujourd'hui, dans la société, on te dit quoi? Tu es Dieu. C'est toi. Oui, Jean-Claude?
Comme tu l'as mentionné, même les démons reconnaissaient sa divinité et se soumettaient à lui étant Dieu fait homme.
Oui.
Alors, si les démons, c'est une des grandes preuves qui nous est fournie
oui.
dans la parole de Dieu, que même les démons y croient, comment se fait-il que nous, les humains, pendant 45 ans, j'y ai pas cru, et combien d'autres ne croient pas non plus? Mais c'est une preuve renversante quand on pense à ça.
Oui, tout à fait. Je vais répéter. Une preuve renversante que c'est la vérité, c'est que les démons, lors de la vie de Christ sur terre, se soumettaient à lui et reconnaissaient qui il était. Tu n'es pas Dieu, tu n'es pas à l'origine de ta personne, ton être, ton existence dépend d'un autre. Et que ça, c'est insultant dans notre contexte aujourd'hui. Mais quand on demande, on se demande, as-tu choisi tes parents? As-tu choisi de venir au monde à cette époque-ci? As-tu choisi de venir au monde en Amérique du Nord, au Québec? As-tu choisi que tes yeux seraient bruns? As-tu choisi que tu serais un homme, une femme? Non? As-tu choisi d'exister? Mais ce qui est merveilleux ici, c'est qu'on voit que tu as été voulu, tu as été désiré, parce que quelqu'un t'a créé. Quelqu'un a pensé à toi et quelqu'un a voulu que tu existes. Quelqu'un a parlé ton existence. N'est-ce pas merveilleux? Tu fais partie d'un tout qui s'appelle la création, un chef-d'œuvre de chef-d'œuvre qui reflète la beauté, l'intelligence inimaginable de celui qui l'a conçu et élaboré. Dernièrement, ça m'a frappé et j'ai été saisi là, de plus qu'avant, là, que Dieu, c'est le créateur souverain du ciel et de la terre. Et que quand je m'adresse à lui, je m'adresse à un être extraordinaire, grand, intelligent, glorieux, qui me dépasse. C'est le souverain créateur de tout, de tout, tout, tout. C'est lui, là. C'est à lui que je parle, là. Wow! Tu n'es pas Dieu, mais tu as été voulu et désiré et créé par Dieu. Et tu fais partie de cette création qui glorifie Dieu, qui glorifie cet être magnifique-là. Et sais-tu quoi? Tu es redevable envers ce Dieu-là. Les êtres humains veulent s'esquiver d'être redevables envers qui que ce soit, sauf eux-mêmes. Mais tu es redevable envers celui qui t'a créé. Tu lui dois tout, tout, tout. Sachant ces choses, la Bible nous dit que nous devrions être remplis d'une reconnaissance joyeuse envers ce Créateur merveilleux. Mais malheureusement, nous nous sommes détournés de lui. Et l'apôtre Paul nous dit dans sa dissertation dans Romains 1, oh, ça c'est David, Romains 1, du haut du ciel, Dieu manifeste sa colère contre les êtres humains qui ne l'honorent pas et ne respectent pas sa volonté. Il manifeste sa colère. Ça va mal dans le monde, les amis. Ça va mal. Mais une raison que ça va mal. Ils étouffent ainsi malhonnêtement la vérité. En effet, ce qu'on peut connaître de Dieu est clair pour eux. Dieu lui-même le leur ayant fait connaître. Car depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit. On a vu les pierres du Mont-Béant, les mégalithes, on s'est dit ça, c'est une œuvre humaine. On voit, c'est une œuvre humaine, c'est pas arrivé par hasard. C'est une intelligence qui a fait ça. Il y avait une puissance pour faire ça. La nature, elle ne peut pas faire ça. Mais lorsqu'il arrive à Dieu, on dit non, 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 non. C'est arrivé tout seul. On étouffe la vérité. Ils n'ont donc aucune excuse, car alors qu'ils connaissent Dieu, ils ont refusé de lui rendre honneur que l'on doit à Dieu. On doit honneur à ce Dieu-là. Et de lui exprimer leur reconnaissance. Des fois, dans mon bureau, j'ai des gens qui disent je suis reconnaissant pour telle affaire, pour ma santé, pour telle affaire. Et là, ça me saisit toutes les fois. Parce que je dis, ça, c'est bon, ça. Et reconnaissance, c'est une belle valeur. Hein? Et je leur dis, on dirait qu'on le retrouve de moins en moins, hein? La reconnaissance. Puis si ça permet, si je vois que la personne est ouverte, je leur dis, la première étape vers la spirale descendante de la dégradation humaine, la Bible dit, c'était manque de reconnaissance. Fait que c'est important, la reconnaissance. Paul va décrire après ça toute la spirale infernale de la descente aux enfers, de la race humaine. Mais ça commence là, les amis. Ça commence là, à refuser de reconnaître qu'il y a un Créateur souverain à qui on doit honneur et reconnaissance. Et malheureusement, les mensonges de l'évolution nous influencent, pénètrent dans l'Église chrétienne. Et nous dérobe ces vérités-là qui sont tellement fondamentales à notre foi. Fondamentales. Pourquoi ça va si mal aujourd'hui dans le monde? C'est pas parce que le Créateur a créé quelque chose de mauvais. C'est parce que l'être humain s'est révolté et que la création a subi la colère de Dieu. Et qu'elle est aux prises avec le mal dans le monde spirituel qui s'est révolté aussi contre Dieu. Parce qu'on s'est détourné de la source de notre vie, de toute vie. Est-ce que ça va mal dans ta vie? As-tu été, es-tu profondément reconnaissant envers celui qui t'a créé? Lui à qui tu dois tout honneur. Imaginez un roi, là, un roi d'un pays qui est riche, qui est intelligent, qui est fort, qui est puissant, qui a des enfants, et qui donne tout à ses enfants, et après ces enfants-là se révoltent contre ce roi-là et se mettent à lui faire la guerre. C'est ce que nous avons fait. La Bible dit que nous avons tous péché. Nous sommes tous révoltés contre Dieu. Puis on se demande pourquoi ça va mal. La Bible nous compare tous à des brebis qui se sont égarées, qui ont suivi chacun son propre chemin, et en ce faisant, nous sommes perdus dans un monde de ténèbres où réside le mal et la mort. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce même verbe, cette parole qui a tout créé, est un Dieu d'amour et de grâce. Et on va voir ça plus loin dans la série. Mais ce matin, je veux quand même insister sur le point qu'il est venu pour te retrouver, toi, sa brebis précieuse, qu'il a voulu. Et il t'invite ce matin à revenir à lui, à te retourner vers lui en quittant ta vie de révolte contre lui qui t'a conduit dans ce monde de ténèbres où tu t'es blessé, où tu as blessé d'autres, contrairement à son plan pour toi et sa création. Car ce Dieu-là est bon. il est bon. Il est bon. Jésus, la parole te tend la main ce matin. Veux-tu la prendre? Et pour ceux qui l'ont reçue, soyons remplis de reconnaissance et de joie envers ce Jésus qui nous a voulu, qui nous a créés, qui nous a secourus, et rendons-lui l'honneur qui lui est dû. Amen. Prions. Oui, Dieu éternel, roi de gloire, souverain créateur du ciel, de la terre, de tout ce qu'ils contiennent. Saisis-nous, Seigneur, d'une vision de ta personne ce matin. Tu es digne de tout honneur, tu es digne de toute gloire, de toute louange. Tu es digne qu'on soit redevable envers toi, qu'on soit tourné vers toi, mais on s'est détourné de toi. Toi, l'être le plus merveilleux, le plus glorieux, le plus généreux de l'univers, c'est à toi que nous devons notre existence, Père. C'est à toi que nous devons toutes les choses que nous prenons pour acquises, que nous imaginons qu'elles nous sont dues. Ô Seigneur Dieu, pardonne. Pardonne-nous. Nous sommes coupables. Nous sommes coupables de ne pas avoir rendu honneur et gloire à ce Dieu. De refuser d'être reconnaissant, d'étouffer la vérité, de la séquestrer, la vérité, sur toi, pour pouvoir s'ériger ensuite nous-mêmes en Dieu. Et c'est de la folie. C'est de la folie. Quelle folie, ô Dieu! Mais malgré notre folie et notre méchanceté, cette parole est devenue chère. Cette parole est venue jusqu'à nous. Ce matin, Père, on te demande de toucher nos cœurs avec ces vérités-là, de nous fonder dans ces vérités-là. Arrache tout mensonge de notre cœur. Détruis toute forteresse qui s'est élevée dans nos cœurs contre toi, qui est bâtie sur des mensonges. Viens, Seigneur Dieu, implanter ta vérité en nos cœurs et nous transformer. Jésus, Fils éternel de Dieu, à toi la gloire, à toi l'honneur. Tu es merveilleux, Seigneur Jésus. Et oui, on veut contempler ta gloire, la gloire du Fils unique de Dieu. Merci, Seigneur Jésus, d'être la parole, d'être le Verbe qui nous a révélé le Père, qui nous communique qui est le Père. En toi, nous voyons le Père. Seigneur Jésus, c'est quelqu'un ce matin qui n'a jamais plié genou devant toi. Je prie que tu te révèles à cette personne ce matin. Et si tu n'as jamais plié genou devant Jésus-Christ ce matin, je t'invite à le faire. Viens, il te tend la main, il t'aime. Il veut cette relation avec toi. Il t'a voulu. Il t'a créé. Il te tend la main ce matin. Merci, Saint-Esprit, d'ouvrir nos yeux, nos cœurs à ces vérités, de nous révéler la pensée intime du Père. Sans toi, ce serait impossible. Merci pour ta vie en nous. Seigneur, remplis nos cœurs de ton amour pour que cet amour déverse sur les autres alentour de nous. Cet amour qui t'a poussé à venir, toi, le Verbe éternel à venir sur terre, par amour. Remplis nos cœurs d'amour, Seigneur, pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Transforme-nous, pardonne-nous. Transforme-nous en papillons, comme on a vu ce matin. Ta gloire, Seigneur Jésus. Amen. Encore deux chants, je crois.